Alors, pourquoi les prises de position politiques d'Aragon dans ce début des années 30, Philippe Solers?
Voilà quelqu'un donc qui vient, dit-il, de brûler une grande partie de ce qu'il a écrit, qui a tenté de se suicider parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de moyens de subsistance, et il va falloir aussi avoir une sorte de sécurité sociale. Il y a une lettre à Jacques Doucet, très très belle, de 1927, pour lui expliquer ce que c'est que la politique au moment où il lui parle, c'est-à-dire son mécène, hein, où il est question des salaires, de la façon dont les gens vivent. C'est quelqu'un de très lucide, Aragon. Hein. Pas quelqu'un qui fait de la littérature comme ça, puis après on vit avec des rentes. C'est pas André Gide, c'est pas tout ça. C'est pas la NRF du tout. Donc, en 1929-30, basculement. Et là, la perspective, c'est quoi en France? Est-ce qu'il y a une perspective révolutionnaire? Oui, vous allez me dire, on va vers 34, 36, le Front Populaire, etc. Mais on connaît la suite, hein, 1940. Alors, voyons Aragon à Moscou. Ce surréaliste parmi les libertins, libertaires, qui va brusquement tourner à son contraire, c'est-à-dire ce que j'appelle la grande police du siècle. Aragon va devenir un des plus grands policiers du siècle. Tout simplement. Pourquoi ? Mais, qu'est-ce qui lui arrive exactement ? Si on est du mauvais côté de la société, c'est-à-dire pas vraiment récupérable par la bourgeoisie de son temps en France, c'est pas son cas. On peut pas aller faire des offres de service avec ce qu'il vient d'écrire et sa réputation. Je vous renvoie au Conte d'Irène, à la défense de l'infini, son dossier est déjà très épais. Hein? Mal vu. On ne peut pas se rendre à la bourgeoisie française. À Moscou, en revanche, si tu renonces à tes turlupinades surréalistes avec tes copains, tout ça, le marché est en bas. C'est-à-dire, c'est du pouvoir. Un pouvoir énorme. Le Parti communiste en 1927-1930 en France est une vaste plaisanterie, ça n'existe pas, du point de vue de la police. C'est rien.
Tout est à faire.
Bien sûr, le pire reste à faire. C'est une construction. Quant aux différents groupes anarchistes, subversifs, au surréalisme lui-même qui commence à s'essouffler un petit peu, bon, qui ne débouche pas vraiment sur l'action révolutionnaire, bon, ça, on peut suivre ça pas à pas, et ça peut se prouver dans les entretiens de Breton, dans tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon. Donc, voilà Aragon qui bascule dans la police mondiale. À partir de là, c'est un parcours du combattant. On va lui trouver une petite activité à l'Humanité, il va être pigiste de base, il va être ceci, cela, mais enfin... Mais, ça fait 27-82, il meurt, c'est constant. Jamais il ne revient là-dessus. Alors de temps en temps, bien sûr, surtout vers la fin, quand la police de Moscou se montre plus faible, enfin plus critiquable, il décroche un peu. La grande période, c'est évidemment les années 50, on atteint les sommets d'auto-aveuglement voulu. Enfin, c'est tout à fait volontaire. Mais revoyons ça. Aragon devient un policier soviétique, c'est le mot, en 1930. En 1933... Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. On ne va pas dire à ce moment-là que l'urgence apparente. Il y a d'autres urgences pendant ce temps-là aussi. C'est comme ça qu'on se raconte l'histoire. Mais enfin, ça n'a pas l'air de lui donner tort. L'Union soviétique change de politique. C'est comme ça qu'on va arriver au Front populaire. Ça ne semble pas lui donner tort. Le Parti communiste est très bénéficiaire de cette opération 36. Prêt ? Là, il commence à exister très fort. 1940, la défaite. Ben, ça semble pas lui donner tout à fait tort non plus. Ça sera le parti des fusillés, etc. Ça sent que la légende commence. Là-dessus, on peut faire de la poésie patriotique, etc. Plus ou moins réussie, peu importe, des chansons après la guerre. Enfin, puis des romans plus ou moins réalistes, les communistes, quelle barbe. Bon. Ensuite, on est après la guerre. Donc, il faut reconstruire. Donc, on n'est pas dénoncé comme ayant été du mauvais côté de l'histoire. Après tout, Staline était bien l'allié des Américains, des Anglais. Enfin bon, c'est quand même Stalingrad, hein, le parti des fusillés à partir de ce moment-là. Donc, Énorme légende. Évidemment, vous allez me dire, ça commence à se fissurer un peu après, parce que l'histoire est têtue, elle avance comme ça. Mais c'est très tardif. Et dans la dernière période, en effet, il y a une tentative de rétablissement. Et là, il y a un certain nombre de romans qui mi-chevaux, mi-chèvre, mi-lyrique, mi... où il essaye de retrouver. D'ailleurs, c'est très fréquent, les textes qu'il écrit à ce moment-là, c'est par à l'autre et à mon... Il se rappelle, ça, le merde. Et alors, si je m'étais trompé... Alors maintenant, bon, on pourrait rester très longtemps là-dessus, point par point, année par année, hein, avec les rapports avec la peinture, des histoires, le portrait de Staline, patati patata.
Oui,
mais pour revenir à l'essentiel, enfin, ce que je considère, moi, comme étant l'essentiel, personne ne se demande vraiment, parce que tout de suite les considérations deviennent trop politiciennes, politiques, au sens étroit. Personne ne se demande vraiment qu'est-ce qui pouvait brûler les mains d'Aragon dans ce qu'il était en train de faire entre 1924 et 1928. C'est-à-dire ce qu'il a réellement fait avec son corps et avec son écriture. Une des plus adaptées à la liberté concrète qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que La Femme française, que La Défense de l'Infini, que Le Paysan de Paris. Il n'y a pas mieux. Il y a d'autres choses très importantes, mais il n'y a pas mieux sur le plan de la liberté individuelle proposée par un corps masculin. Et alors, ce corps masculin, ben, il s'est inversé. Il a été inversionné. Et c'est la question qui devrait nous retenir. Autrement dit, la question fondamentale, ce serait, au lieu d'appliquer tout le temps cette vision messianique, téléologique de l'histoire, scolairement apprise, rabâchée par les militants et le crétinisme militant depuis des siècles, il faudrait considérer à quel moment ça respire, à quel moment ça s'étouffe. Entre telle et telle année, grande liberté. Par exemple, entre 1966 et 1972, avec 68 comme pointe. Grande liberté, énorme liberté. Avant, un peu après, et puis, boum, plus rien. Entre 2021, deux ans après la guerre, et 1929-30, énorme liberté, énorme. La preuve, Aragon. Notamment, pas que lui. Il y a Picasso aussi, il y a d'autres gens qui tiennent la route. Mais ces textes-là d'Aragon, hein, ils sont très... il faut les lire à haute voix pour voir jusqu'où ça va. Il faut s'habituer à penser l'histoire comme ça. Diastole, systole, respiration, étouffement, liberté, répression. Dans ce cas de figure, au laboratoire, si on se débarrasse de toutes les versions stéréotypées, hein, l'animal Aragon... Il faut le placer sous microscope et faire des coupes. Et alors ça gênerait tout le monde. Ça gêne les staliniens et leur histoire, et pour cause. Ça gêne les académiciens qui l'ont enrôlé dans une restauration de je ne sais quel génie français éternel. Ça gêne les trotskistes parce que c'est le diable ou les gauchistes. Parce que c'est vraiment le traître absolu. Ça gêne sur... Voilà. Tout le monde est d'accord pour, au fond, qu'on évite de le mettre sous microscope. Alors, mettons sous microscope La Défense de l'Infini et voyons qui est capable aujourd'hui. Il faut des noms. Il faut que ça puisse juger notre temps. Qui est capable aujourd'hui d'écrire des choses comme ça, c'est-à-dire d'avoir l'expérience concrète de telle situation qui permet d'écrire des choses comme ça. Et alors ça va être accablant. Parce que si j'ouvre La Défense de l'Infini et je compare ça aux livres qui paraissent, je vais trouver que c'est pas possible, qu'on est dans une situation hyper merdique. Naturaliste, populiste, banlieusarde, déprimé, étriqué, etc. Je trouve ça d'une liberté splendide. Donc, pour juger de la régression qui est la nôtre, Aragon, 1927, c'est parfait.